Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette quatrième séance consacrée aux enquêtrices dans le cinéma policier criminel français des années 1930 et de la première moitié des années 40, hein, durant la guerre et l'occupation. On va s'intéresser donc aujourd'hui à un autre contexte national que lors de la précédente séance, à une autre déclinaison aussi hein, de ce genre policier criminel aux multiples facettes. La différence la plus évidente entre le policier criminel français et son équivalent américain, c'est peut-être la manière dont les stéréotypes de genre sont plus univoques. Le film policier criminel français, en effet, hein, a longtemps été en France le lieu d'une affirmation tranquille, entre guillemets, du masculin dominant, avec une marginalisation des femmes plus importante que dans le cinéma hollywoodien. Un exemple, slide numéro 2, célèbre, se trouve dans Touchez pas au Grisby. Je vous ai indiqué un renvoi, un lien vers l'extrait sur YouTube, hein, si vous voulez le regarder. Une séquence où Jean Gabin, donc, qui joue un patriarche, un gangster vieillissant et tout puissant, en tout cas, envers son entourage féminin, remet à sa place Jeanne Moreau avec une gifle monumentale, et vous avez un plan où son ombre hein, vraiment se projette menaçante sur l'image de Jeanne Moreau, comme un symbole un petit peu de ces rapports de force qui sont vraiment très très inégalitaires dans le cinéma policier criminel français, avec en particulier hein, dans les années 50 ici la figure de Jean Gabin comme chef entre guillemets d'une famille essentiellement masculine et organisée autour de rapports hiérarchiques patriarcaux, une famille dont sont exclues les femmes à moins de se montrer entièrement soumises aux hommes. Ce qui, évidemment, dans le contexte d'après-guerre, participe d'une réaffirmation hein, de l'identité masculine après la défaite qu'elle a pu subir pendant la drôle de guerre, après l'occupation, la manière aussi dont les femmes ont assuré des responsabilités traditionnellement masculines à cette époque. Évidemment, c'est une séquence qui prend ses enjeux par rapport à ça, mais ça reflète aussi plus globalement hein, vraiment une inégalité qui est plus forte dans le cinéma français. Cette inégalité, slide numéro 3, elle se prolonge par des stéréotypes assignés aux femmes, en particulier le stéréotype de la garce, de la femme coupable, malfaisante, ou encore le stéréotype de la victime. Et on peut essayer hein, de catégoriser les rôles féminins selon cette répartition, garce ou coupable d'un côté, victime de l'autre. Ça dit énormément, évidemment, de la façon dont les rôles écrits pour les femmes dans cette période traduisent hein, l'inégalité dont je vous ai parlé. On observe ainsi en 1939 qu'il y a beaucoup plus de coupables que de victimes hein, si on se fie à la classification proposée par Gwenaëlle Legras hein, qui a tenté de compter le nombre de rôles dans chacun des cas. Ce qui peut traduire hein, cette impression de forte inégalité. Et en même temps, ce qui est intéressant dans son travail, hein, sur lequel je vais en partie m'appuyer hein, pour cette séance, c'est de montrer que durant l'occupation, donc seulement 3 ans plus tard, ici en 1942, hein, le nombre de coupables a drastiquement chuté et on en est arrivé à une équité hein, entre les coupables et les victimes avec 3 rôles dans les films produits cette année, hein, dans chacun des cas. Alors, ici, on a un indice hein, que durant la période de la guerre et de l'occupation, un indice évidemment qui demande à être une hypothèse qui demande à être vérifiée par l'analyse, mais on a un indice que durant la guerre, hein, les rôles genrés ont sans doute fait l'objet d'une redéfinition, peut-être d'une forme de brouillage aussi, hein, en relation au fait que les femmes à cette époque prennent différentes responsabilités qui étaient auparavant dévolues aux hommes, que les hommes, de leur côté, hein, se trouvent dans une situation qui contraint finalement l'expression de la domination masculine. Et donc, on a ici l'indice qu'il peut être intéressant de se pencher plus précisément sur cette période entre la fin des années 30 et le début des années 40 pour observer ce qui s'y passe au prisme des gender studies et dans le cinéma policier criminel français, au travers en particulier de l'émergence d'une figure, donc celle de l'enquêtrice, dont on va voir qu'elle vient effectivement bousculer un petit peu la hiérarchie entre le masculin et le féminin, qu'elle va contribuer à transformer ce genre cinématographique en lieu de tension hein, entre mécanisme hégémonique et forme de résistance féminine à ces mécanismes. Donc, je vais essayer de vous proposer aujourd'hui l'analyse de deux films. Alors, on va plus s'attarder sur le premier, Piège, réalisé en 1939 par Robert Siodmak. On parlera un tout petit peu en fin de séance d'un film produit sous l'occupation, L'assassin habite au 21, pour voir un petit peu hein, comment se présente cette figure d'enquêtrice, ce qu'elle signifie, quels sont ses enjeux, ce qu'elle change de la représentation du féminin et du masculin, dans ce contexte d'identité masculine fragilisée d'une part et d'émancipation naissante chez les femmes d'autre part, donc à l'approche de la guerre et sous l'occupation. Alors que dans le cinéma policier criminel français, les rôles de femmes, on le disait, sont habituellement des garces ou des victimes, émergent juste avant la guerre, puis de manière plus nette sous l'occupation, des rôles de femmes qui mènent l'enquête et qui vont s'écarter de ces stéréotypes. Alors ça ne veut pas dire qu'aucun stéréotype ne va leur être assigné, mais on a une nouvelle figure hein, qui va au-delà en tout cas de cette répartition binaire entre coupable et victime, qui propose aux femmes de jouer un rôle actif au sein de l'enquête, hein, ce qui ne va pas de soi en fait hein, dans le paysage policier criminel français de l'époque, où l'enquête traditionnellement est du ressort des personnages masculins. Et en fait, la diminution hein, du nombre de coupables qu'observe Gwenaëlle Legras en 1942, on peut estimer qu'elle est liée à justement la percée des enquêtrices qui va accompagner cette diminution coupable et qui va modifier un petit peu les normes genrées dans ce paysage policier criminel. Slide 4, quelques mots de présentation sur le film Piège de Robert Siodmak, cinéaste émigré allemand qui, comme plusieurs hein, de ses compatriotes, a fui l'Allemagne nazie, s'est exilé en France avant souvent d'émigrer à Hollywood. Donc ça, c'est une trajectoire aussi qui est intéressante à analyser du point de vue de l'histoire du cinéma. Elle est commune à plusieurs cinéastes comme George Pabst ou Fritz Lang. A des conséquences aussi sur la manière dont on peut analyser ce film, hein, qui, vous allez le voir, possède un style très cosmopolite, qui fait un peu le lien, si vous voulez, entre le cinéma allemand de Weimar et le film noir hollywoodien des années 1940. Piège est un film sorti en décembre 1939, au début de la Drôle de guerre. Il a été tourné quelques mois auparavant, dans un contexte politique assez tendu. Il a rencontré un certain succès, ce que on peut relier hein, au discours qu'il porte sur son époque, à cette espèce d'ambiance de malaise hein, que vous allez trouver dans le film, et qui, sans doute, hein, a rencontré un certain écho auprès du public. Le film s'inspire d'une affaire criminelle qui a défrayé la chronique à l'époque, l'affaire Whiteman, en 1937. Hein. Celui-ci a avoué être l'auteur de différents assassinats d'hommes et de femmes, et lors de son procès en mars 1939, les journaux hein, ont comme détective ici hein, ont fait vraiment leur gros titre sur cet assassin, ce tueur en série. Et le film Piège donc s'inspire de l'affaire et est un des premiers hein, films policiers criminels français à nous proposer ce motif du serial killer que l'on avait déjà pu voir dans le cinéma allemand, si vous pensez à M le Maudit par exemple. Donc ça participe des raisons qui font de ce film un objet assez méconnu mais vraiment très intéressant, aussi bien son rapport à l'actualité, son rapport à la médiatisation aussi hein, du crime. On sent que le film policier criminel français à l'époque hein, commence à élaborer certaines intrigues en référence à la réalité sociale, et en même temps ça participe d'une dimension internationale et cosmopolite, puisque le réalisateur vient d'Allemagne, que le film s'inspire à la fois sur le plan visuel et dramaturgique de tout un héritage du cinéma allemand. Quelle est l'histoire racontée? Eh bien, 11 jeunes filles, danseuses de cabaret ou entraîneuses, ont disparu au début du film, sans laisser de traces. Grâce au témoignage d'une taxi girl nommée Adrienne Charpentier, interprétée par Marie Déa, qui était la camarade de l'une des victimes, la police va comprendre que le meurtrier, un maniaque sexuel, attire ses victimes par le biais de petites annonces dans les journaux. Donc, je vous ai mis ici une illustration hein, sur la slide 5 de ces gros titres utilisés dans le film. Adrienne va collaborer avec la police, qui jusqu'ici était impuissante à arrêter le tueur en série. Elle va travailler en particulier sous les ordres du commissaire Ténier, sous la protection d'un inspecteur de police. Et elle va répondre aux annonces qui concernent les femmes seules et affronter le danger en acceptant des rendez-vous nocturnes dans des endroits douteux pour démasquer le coupable. Voilà un petit peu le tableau. Et pour compléter, on va dire, la description de ce film, en particulier de sa dimension internationale, on peut souligner, avec Ginette Vincendeau, que Piège anticipe l'accent mis par le film noir hollywoodien, hein, un petit peu plus tard, sur une vision sombre, pathologique, de la masculinité en crise, une vision colorée par la psychanalyse. Et le film est intéressant à analyser de ce point de vue-là, aussi parce que dans le même temps où il anticipe un petit peu ses représentations du film noir hollywoodien, il va reposer sur un acteur, Maurice Chevalier, qui est un petit peu aux antipodes de cette vision. Et c'est cela aussi qu'on va tenter d'analyser, tout en gardant notre focalisation hein, sur le personnage d'enquêtrice interprété par Marie Déa. À plusieurs moments, je le mettrai en relation avec cette vision de la masculinité un peu contradictoire, hein, qui d'un côté semble anticiper le film noir dans sa dimension sombre, pathologique, ses liens avec la psychanalyse, et de l'autre côté repose sur un acteur qui, a priori, hein, n'a pas du tout une image conforme à ses représentations. Donc ça va créer des moments un petit peu étranges dans ce film. Et ça fait partie des choses qu'on peut essayer d'analyser, de même que sa dimension hybride ce qui peut apparaître à première vue comme des surprenantes ruptures de ton, notamment hein, dès le début, après le générique qui est vraiment très très sombre. On enchaîne sur des séquences diurnes à l'atmosphère plutôt comique ou légère, et tout le film en fait on va articuler comme cela des séquences qui reposent sur des tonalités différentes. Comme pour opposer hein, un Paris lumineux et un Paris obscur, un monde ordinaire, normal, rationnel, et de l'autre côté un monde de pulsions mortifères, inconscientes, qui, vous allez le voir, est peuplé par toutes sortes de figures, notamment masculines, défaillantes, hors normes, un couturier fou, un majordome sado-masochiste, notamment. Pour commencer l'analyse de ce film, je vous propose de regarder le premier extrait et de rebrancher ensuite le fichier audio. Donc vous allez voir la manière dont l'intrigue se met en place et dont la jeune femme, donc Adrienne, interprétée par Marie Déa, se rapproche de la police suite à la disparition d'une de ses camarade et va endosser ce rôle d'enquêtrice, tout en servant aussi bien sûr d'appât. C'est notamment cette tension-là qu'on peut essayer d'analyser. Alors, vous avez pu voir un début de film qui, au premier abord, semble tout à fait classique. On nous propose une exploration dans un milieu essentiellement féminin, celui des taxi girls, donc ce terme désignait l'activité de jeunes femmes qui étaient rémunérées pour danser avec des hommes dans les cabarets. Et on les appelait taxi girls parce que, à l'issue de la danse, elles recevaient leur rémunération exactement comme une course en taxi. Néanmoins, même si au premier abord hein, on a l'impression de quelque chose à la fois d'assez classique et d'assez normatif, hein, puisque le film va nous présenter tout d'abord hein, des femmes victimes hein, dans cet univers des taxi girls, certains éléments vont venir troubler un petit peu ces normes, et en particulier hein, la manière dont Adrienne va se démarquer en partie de cette imagerie. C'est vrai que de prime abord, elle apparaît comme une victime idéale. Vous l'avez entendu lorsqu'elle se présente auprès du commissaire, jeune femme sage, seule, de conditions modestes, qui travaille comme taxi girls en attendant mieux. Néanmoins, contrairement à son amie Lucie, qui deviendra une victime hein, du tueur, elle refuse de chercher un bon parti pour se faire entretenir. Elle est également volontaire, et vous avez pu voir hein, l'ironie qu'elle est capable de manier, y compris face à une figure d'autorité comme le commissaire, qui va la démarquer des rôles traditionnels d'ingénue. Lors de son interrogatoire, et dès son interrogatoire, Adrienne fait preuve d'intelligence. Elle devine la proposition de l'inspecteur, hein, qu'elle impressionne. Et ici, ce qui émerge, c'est donc un personnage qui choisit la fonction d'enquêtrice et en même temps qui choisit de servir d'appât, on pourrait dire, pour piéger le tueur, mais qui ne se conforme pas à un rôle de victime pour autant. Elle fait ce choix de manière active, sans subir son sort, et en cela, hein, ce rôle marque une rupture avec les représentations féminines traditionnelles du genre policier, une mutation du stéréotype de la victime fragile et passive. Et toute la suite du film, vous allez voir, va valoriser les qualités de l'enquêtrice, qui va aller au devant du danger, et accéder aussi, d'un certain point de vue, à un statut social supérieur grâce à son rôle actif dans l'enquête. Plusieurs autres éléments ici hein, sont intéressants à relever aussi dans les informations hein, que Marie Déa donne au commissaire, le fait, par exemple, qu'elle parle plusieurs langues. Hein, on met l'accent sur, finalement, l'intelligence hein, de l'enquêtrice, ce qui renvoie aussi à la nécessité hein, de sa présence. On sent dès ce début de film qu'elle possède des qualités dont les hommes sont pas forcément les propriétaires, et on comprend que son rôle va être indispensable dans l'arrestation du coupable dès cette séquence. Suite à son recrutement, donc, vous avez vu à la fin de l'extrait, une annonce est publiée dans le journal et l'enquêtrice se retrouve en situation, hein, prétendant être simplement voilà, une femme qui répond à des annonces publiées dans le journal, d'hommes demandant à rencontrer des femmes seules pour divers motifs hein, que l'on va... regarder, observer durant le film. Et donc, elle répond à une première annonce et se retrouve dans une voiture avec un homme, comportement un petit peu mystérieux. Donc, c'est le deuxième extrait que je vous propose de regarder. Extrait très intéressant, puisque il montre hein, la manière dont le centre d'intérêt du récit, qu'on nous avait présenté au départ comme l'exploration d'un milieu féminin, celui des Taxi Girls, va peu à peu se déplacer vers l'identité masculine et présenter sous différents visages, tous aussi pathologiques les uns que les autres. Adrienne, donc, sert d'appât en même temps que de détective, même si les dangers qu'elle court hein, sont plus apparents que réels. Elle a affaire, on le voit ici à travers la rencontre avec l'inspecteur, celui qui se faisait passer évidemment pour un homme louche, à des figures masculines qui vont se révéler tour à tour inoffensives, pathétique, obsessionnel, une véritable galerie de portraits masculins dysfonctionnels qui démarre donc avec le portrait ici de l'inspecteur Battle. Le personnage qui est un petit peu en dehors de cette galerie, ce serait le commissaire hein, que vous avez vu dans l'extrait précédent, qui incarne plutôt le centre de gravité du film, en niveau en tout cas de la représentation de la masculinité tranquille, mais tous les autres personnages hein, masculins qui vont se succéder, ceux que Adrienne va rencontrer au travers de son enquête, vont se révéler défaillants par rapport à la norme de différentes manières. Donc c'est vraiment un état des lieux hein, d'une identité masculine en déroute que le film va peu à peu dresser. Et ici, ça commence donc par cet inspecteur à l'apparence peu virile, qui affiche une grande maîtrise de lui au départ, lorsque il tente d'effrayer Adrienne, puis de se moquer d'elle pour son incompétence présumée, en la traitant à deux reprises d'oie blanche, et en s'amusant hein, du fait qu'elle ne paraît guère qualifiée pour mener l'enquête. Néanmoins, vous avez pu voir la rapidité avec laquelle l'inspecteur se révèle en fait inoffensif. Adrienne réussit en effet à le désarmer à son tour, le privant ainsi de cet attribut spécifiquement masculin qu'est le revolver. Donc ça, c'est pas du tout anodin, puisque... encore une fois, on est dans un paysage policier criminel français à l'époque où ce sont les hommes qui mènent l'enquête, ce sont les hommes qui sont confrontés au danger, ce sont les hommes qui manient des armes telles que l'arme phallique par excellence, le revolver. Et ici, On a véritablement quelque chose qui s'inscrit en décalage très fort avec les représentations dominantes, qui montre que l'ordre genré traditionnel, finalement, apparaît bien vacillant face à cette héroïne qui prouve son efficacité très rapidement, hein, finalement, sur le terrain, sans même être une professionnelle. Et tout cela est d'autant plus prégnant que cet inspecteur peu viril, donc Battle, est interprété par un acteur, Temerson, qui est un qu'on appelle un des excentriques du cinéma français de l'époque. Donc c'était des acteurs, hein, qui étaient spécialisés dans ce type de second rôle, essentiellement à valeur comique. Et dès sa première apparition, non seulement il se révèle timoré, efféminé, mais vous comprenez qu'il vit chez sa mère, ce qui n'est voilà, pas le plus grand indice de virilité qu'il peut y avoir dans l'univers du film policier criminel, j'entends. On passe à l'extrait suivant, numéro 3, où vous allez découvrir un personnage. Donc là, on va monter un petit peu en gamme et en niveau de pathologie avec Eric von Stroheim, que vous connaissez peut-être en tant que cinéaste, mais qui est aussi acteur et notamment un des acteurs emblématiques du cinéma policier criminel des années 1930. Qui souvent est abonné au rôle de coupable. Et ici, on a une séquence qui s'inscrit justement de manière assez intéressante, hein, par rapport aux stéréotypes qui sont souvent assignés à von Stroheim. Donc je vous propose de regarder l'extrait, puis de rebrancher le fichier audio. Alors, une séquence qui nous dit plusieurs choses. Donc tout d'abord, pour bien vous permettre de comprendre ce qui se passe au niveau du récit, ici, hein, le personnage interprété par Eric von Stroheim est un autre donc de ces hommes qui ont publié une annonce dans le journal demandant à rencontrer une jeune femme seule. Donc l'enquête s'oriente vers lui et il semble être un coupable tout désigné puisque Eric von Stroheim, hein, a souvent interprété ce type de rôle à l'époque. Gwenaël Legras explique que au cours des années 30, hein, les films criminels français emploient souvent des acteurs d'origine étrangère pour incarner le coupable, surtout à la fin de la décennie où les menaces d'un conflit avec l'Allemagne se précisent, et en particulier, hein, Eric von Stroheim, qui était donc autrichien, hein, a souvent été employé dans des rôles où sont mis au jour, hein, les relents xénophobes du genre, avec des personnages menaçants qui sont suspectés même lorsqu'ils se révèlent innocents, comme si son altérité en soi, hein, était porteuse de culpabilité. Stroheim a par ailleurs régulièrement joué des rôles antipathiques d'officiers allemands dans le cinéma français, donc il a souvent servi, hein, à catalyser le ressentiment anti-Allemagne, plus particulièrement, mais plus largement le ressentiment contre les étrangers dans le cinéma français. Ici, au premier abord, donc, on se trouve un petit peu dans cette configuration-là, dans une séquence qui, bon, par ailleurs, fait vraiment figure de corps étranger, hein, dans le cinéma policier criminel français de l'époque. Je ne connais pas vraiment d'équivalent, hein, à cette représentation qui vous a été offerte. D'un épisode, si vous voulez, fantasmatique. On a une imagerie là qui relève presque du gothique, quelque chose qui est assez étranger en fait aux traditions du cinéma français, donc une illustration de la dimension internationale, cosmopolite du film. Et ce qui est intéressant, bon, c'est que cela s'avère être une fausse piste. Eric Van Stroheim n'est pas le serial killer qu'Adrienne cherche à débusquer. Néanmoins, son innocence est ternie, vous l'avez vu, par sa paranoïa, sa folie de grand couturier viennois déchu, complètement névrosé, puisqu'il organise des présentations de ses créations pour un public imaginaire et incendie, comme vous l'avez vu, son atelier parce qu'il se croit espionné par ses concurrents. Et cela révèle la manière dont ce qui commence à prévaloir dans le film ici, hein, c'est cette idée d'enquête sur la masculinité. Et ça induit un certain retrait hein, de l'héroïne, qui d'ailleurs, vous l'avez vu ici, hein, s'avère incapable d'échapper par elle-même au couturier et à la maison qui prend feu. Et c'est l'intervention de Battle, pourtant présentée sous un jour moyennement efficace et performant l'extrait précédent, qui permet de sauver la jeune femme. Donc ça, c'est révélateur, hein, si vous voulez, aussi de la fonction de l'enquêtrice, hein, qui n'est pas finalement explorée pour elle-même, hein, son identité en tout cas. Elle demeure finalement souvent confinée à ce statut d'appât et de révélateur finalement des troubles du masculin. Et on le voit aussi à travers l'extrait suivant, donc numéro 4 que je vous propose, où elle va rencontrer un majordome sadomasochiste interprété par Jacques Varenne. Regardez l'extrait et rebranchez ensuite le fichier audio. Alors, vous avez pu voir que cette séquence hein, propose une réflexion assez intéressante hein, sur les rapports de domination traditionnelle. Et on a presque l'impression hein, que elle se situe comme une parenthèse vis-à-vis du récit pour permettre l'expression d'un trouble dans le genre, justement, d'un trouble dans la représentation. En effet, le majordome, donc, vous l'avez vu, hein, commence par tenter d'affirmer son autorité en appelant Adrienne mon petit, en lui disant ce qu'elle doit faire et ce qu'il attend d'elle, notamment d'enfiler la robe de nuit qu'il lui a offerte. Et en réalité, c'est elle qui, tout d'abord, grâce à sa répartie, hein, va rendre tout de suite évidente son refus de se conformer à ses directives, en disant notamment on ne fume pas chez moi, et en lui enlevant sa cigarette de la bouche, en jetant ensuite sa chemise de nuit, en lui intimant de se taire, autant de choses qui vont, si vous voulez, couper un peu l'herbe sous le pied du majordome, qui va s'exprimer, ton impudence me renverse, et précisément, c'est un renversement des rapports de domination que met en place la séquence. Renversement hein, qui se confirme tout à fait lorsqu'elle repousse ses avances en critiquant explicitement ce qu'elle nomme les assauts directs. Ici, c'est assez notable hein, que sur le plan des dialogues, on ait une formulation qui très explicitement hein, coupe l'herbe sous le pied à toute tentative d'agression sexuelle ou de gestes inappropriés de la part d'un personnage masculin, quelque chose qui pourtant pouvait être relativement fréquent hein, dans le cinéma français populaire de l'époque. Et en disant, en critiquant ces assauts directs, hein, le personnage affirme aussi une place hein, qui justement est différente de celle que l'on voudrait lui assigner. Elle domine également visuellement la séquence dans sa manière de se mouvoir dans l'espace et par le discours, donc à différents niveaux. Et ça va jusqu'à, vous l'avez vu, cette fin de scène où, installée dans son lit, dont elle refuse l'accès au personnage masculin, elle lui demande de lui allumer une cigarette, donc une image qui est peu commune, hein, encore une fois, dans le cinéma populaire français. elle lui explique qu'il ne faudra pas compter non plus sur un partage économique équitable entre eux. Et c'est vraiment finalement une inversion ici qui est faite à différents niveaux et dont on peut se rendre compte du caractère subversif par le fait que, premièrement, la scène a été coupée pour la distribution du film dans les pays anglo-saxons. Deuxièmement, c'est une scène absente du remake hollywoodien de ce film qui s'appelle Lurd, qui date de 1947, hein, c'est-à-dire que une représentation ici de l'identité féminine au prisme de ce renversement des rapports de pouvoir en France en 1939 a été jugée infaisable dans le contexte du cinéma hollywoodien de 1947. Donc ça vous donne une idée un petit peu du caractère subversif, hein, de cette séquence. Slide 10, on en arrive à ce qui est le dispositif le plus intéressant du film, une sorte de couple de deux personnages masculins qui sont mis en parallèle de plusieurs façons, d'autant qu'ils sont associés en affaires pendant le film et qu'ils sont presque inséparables, hein, durant toute la portion centrale du récit et qu'ils fonctionnent comme des doubles. D'un côté, Fleury, donc, qui est le personnage de séducteur interprété par Maurice Chevalier et qui va d'ailleurs séduire Adrienne, hein, donc avec qui elle va se fiancer, mais qui va aussi être à un moment suspecté du crime, hein, et arrêté par la police. Et de l'autre côté, Brémontière, un personnage interprété par Pierre Renoir, de bourgeois puritain directeur d'un nightclub, et dont on va découvrir qu'il est le tueur et qu'il tue par refoulement sexuel. Ces deux personnages vont fonctionner comme des doubles, hein, de manière extrêmement intéressante. Le film va mettre en équivalence, hein, d'un côté Fleury, le séducteur en série, et de l'autre Brémontière, le tueur en série. D'un côté Fleury volage, de l'autre Brémontière chaste en apparence, en tout cas. Fleury, l'homme de spectacle, Brémontière, l'homme de l'ombre, et enfin Fleury, qualifié de coureur de jupons, alors que Brémontière n'en supporte pas la vue, puisque cela déclenche ses pulsions criminelles. Donc, comment cela se produit au niveau du récit, de la mise en scène, du montage ? Je vous montre plusieurs extraits. Donc, tout d'abord, extrait numéro 5, un montage sur un ton très gai, montrant Fleury et Adrienne faire des emplettes, qui va permettre, hein, finalement de pointer cette équivalence entre Fleury et Brémontière. Donc, regardez l'extrait et l'idée deviendra, je pense, plus claire, hein, au fur et à mesure de l'extrait. Alors, l'extrait est apparemment un peu anodin, semble a priori un peu détaché, hein, de l'intrigue criminelle que l'on vient d'évoquer depuis le début du cours. Et pourtant, il y a effectivement une logique, hein, de mise en équivalence au saut de la sérialité, hein, puisque on devine que Fleury a séduit peut-être pas toutes les femmes de Paris, mais en tout cas énormément de jeunes femmes, notamment qui travaillent dans les magasins où il emmène sa compagne pour lui acheter des vêtements, pour lui acheter des bijoux. Et vous avez pu voir qu'à chaque fois qu'ils vont dans un nouveau magasin, ils croisent une nouvelle jeune femme avec qui Fleury a eu une aventure. Et on devine une aventure qui ne s'est pas très bien terminée, ou en tout cas on devine que Fleury multiplie les conquêtes, est une sorte de séducteur en série, exactement comme Brémontière est un tueur en série. Là où ça devient très intéressant, c'est que, nous dit Ginette Vincendeau, le désir suractif, socialement sanctifié, donc normal, entre guillemets, de l'un, va apparaître finalement aussi pathologique que le refoulement de ce désir chez l'autre. Fleury, en tant que séducteur, est marqué comme le tueur au sceau de la répétition, de la consommation, puisque chaque magasin visité renferme une femme qui l'a séduit. La constellation femme, bijoux, vêtements, finalement, dont les deux hommes on fait un fétiche et fêtée chez l'un et chez l'autre, elle est signalée par les lettres du tueur qui la désigne comme pathologique. En d'autres termes, c'est la normalité même de l'image projetée par Maurice Chevalier, la normalité de son identité masculine, qui est mise en question en étant placée ainsi en équivalence avec les propres comportements du tueur. Et vous avez d'autres séquences dans le film qui établissent cette équivalence. On va voir à un moment notamment que Fleury collectionne les objets et photos ayant appartenu à ses conquêtes dans un tiroir, et ça va d'ailleurs contribuer à en faire un suspect par la police. Le film utilise donc l'enquête policière pour interroger la masculinité et la norme masculine de manière plus critique que cela ne peut apparaître lorsque l'on regarde uniquement cet extrait sans le mettre en rapport avec l'ensemble du film. Et ça se poursuit en particulier à travers un discours coloré par la psychanalyse. Donc ça, c'est une autre particularité du film, puisque on va mettre en équivalence donc le désir socialement acceptable de Fleury et le refoulement de ce même désir chez Brémontière, ce qui le pousse à tuer, et ce qui va le pousser aussi à citer Freud dans une séquence que je vous propose de regarder. Séquence numéro 6. Vous voyez dans cette séquence que l'étau se resserre sur donc, le coupable du film, le tueur en série, Brémontière. On sent que le commissaire voilà, se rapproche de la vérité. Même si on apprend à la fin de l'extrait que Fleury a avoué les meurtres, donc ça on va y revenir, et que ça donne un petit peu de temps au vrai coupable pour momentanément échapper au sort qu'il l'attend. Ici, la séquence a plusieurs choses, plusieurs aspects intéressants. Premièrement, donc, cette illustration des thèses de Freud, qui est assez exotique dans le cinéma populaire français des années 1930, qui anticipe aussi de manière tout à fait étonnante le film noir hollywoodien des années 40 et 50, où soit explicitement on fera référence à Freud dans les intrigues, soit plus tard ça a servi de clé de lecture pour analyser les représentations du genre, en particulier de la masculinité, dans cette période. Donc historiquement ça en fait vraiment un exemple assez fascinant, ce film, au travers ici de cette opposition, qui se traduit en équivalence entre le vrai coupable et celui à un moment que l'on désigne comme tel. Et par ailleurs, la séquence a l'intérêt de désigner finalement le mal, la perversion, pour employer le terme du commissaire, non pas comme quelque chose d'extérieur à la société, alors que c'était fréquent à cette époque dans les représentations du genre policier, qui choisissait le plus souvent des coupables marginaux ou des coupables étrangers. Au contraire, le mal ici germe au cœur de la société, revêtant les traits d'un homme d'affaires respectable en apparence, ce qui témoigne de la crise d'identité de l'ordre patriarcal dont Pierre Renoir est un représentant. Ici, il s'agit d'un contre-emploi pour cet acteur à la silhouette massive qui incarnait souvent dans les années 30 des figures d'autorité, des figures d'officier, et qui ici finalement est dans un rôle qui déstabilise les normes de genre traditionnelles. Plus encore que son personnage, toutefois, c'est la performance de Maurice Chevalier qui va interroger donc le personnage de Fleury, dont on apprend ici qu'il a avoué les crimes, ce qui laisse un petit peu de temps au coupable pour souffler momentanément. Une performance qui déconcerte celle de Maurice Chevalier, puisque elle va entrer en contradiction de manière encore plus franche avec son image à partir du moment où il est mis en accusation. Pendant la première partie du film, et vous avez vu la séquence des emplettes tout à l'heure, ça correspond à peu près à l'image de Chevalier que l'on a traditionnellement, à sa persona, à son sourire, etc., à tout un discours, toute une image de joie de vivre. Et cela va être véritablement brisé, piétiné, à partir du moment où son insouciance hein, va disparaître, sa silhouette va peu à peu se figer, au fur et à mesure que les preuves semblent s'accumuler contre lui, au point qu'il va avouer des meurtres qu'il n'a pas commis. Donc vous pouvez regarder l'extrait numéro 7, la séquence où véritablement le personnage entre en crise. Cela correspond par ailleurs à la slide numéro 13. Comme le soulignent aussi bien Ginette Vincendo que Gwenaëlle Legras, cette séquence possède vraiment une grande importance dans le film en relation avec l'image de Maurice Chevalier. La question « qui a tué » finalement dans le film a peut-être moins d'importance que cette autre énigme « pourquoi Fleury ne se défend-il pas ?» en portant le soupçon sur Brémontière alors que les preuves l'accablent autant que lui. Pourquoi la déchéance de Fleury? Pourquoi sa capitulation face à la police? Et, comme vous l'avez pu le voir, cette passivité qui est presque invraisemblable, en fait. Hein, à partir du moment où il va être accusé, il va s'effondrer immédiatement, en totale contradiction avec l'image normalement de virilité, tranquille, insouciante, de Maurice Chevalier. Cette image, par ailleurs, est très différente dans le film ici du remake, hein, où le héros ne perd jamais son assurance toute sociale, sa prestance. C'est vraiment une particularité ici du film français en 1939. Cet abattement qui peut surprendre, cette passivité incompréhensible, cette forme de résignation hein, rapide, elle trouve un écho particulier dans le contexte de l'époque. En 1939, hein, face à la montée des périls, la perspective d'une guerre se fait de plus en plus probable, et Maurice Chevalier, dans ce contexte, hein, incarne précisément l'insouciance, qui est celle aussi de la Troisième République. Sa chanson « Ça fait d'excellents Français » en 1939 est devenue le symbole de la drôle de guerre, et de ce point de vue-là, hein, on peut faire l'hypothèse hein, que la résignation qu'il affiche ici prend son sens par rapport à cette image d'insouciance hein, qui peut caractériser la France de 1939. Comme si finalement le film nous suggérait qu'il ne fallait pas faire confiance hein, à l'image que traditionnellement Maurice Chevalier représente. On peut d'ailleurs pousser l'analyse dans cette perspective, puisque Fleury, Chevalier, est toujours cadré dans le film en situation de représentation, entouré d'un public, que ce soit dans les séquences où il pousse la chansonnette ou dans les séquences que vous venez de regarder. Hein, il n'y a aucune scène dans le film où il est seul avec Adrienne, sauf à la toute fin. Sinon, ils sont toujours entourés, en représentation d'une manière ou d'une autre, y compris bien sûr dans la séquence des emplettes que vous avez pu voir. Ce qui fait que la tragédie hein, du personnage n'est pas tant celle de la victime d'une erreur judiciaire, mais celle du séducteur parisien, dont Piège démonte les mécanismes et les artifices, en la présentant comme une identité qui n'existe que dans le spectacle, la représentation, et dont la gaieté et la séduction sont dangereusement voisines d'une violence destructrice. Le film ici anticipe des lectures plus récentes que celles de Freud, qui voient dans l'identité de genre une mascarade ou une performance, si vous pensez aux travaux par exemple de Judit Butler, qui informe notre perspective. L'accent mis sur la déchéance masculine, par ailleurs, et pour revenir au personnage féminin, bien évidemment, établit par contraste la force de ce personnage, son statut à la fois de boussole morale et d'héroïne active dans un film qui renverse les clichés qui sont traditionnellement associés aux films policiers criminels et qui place une femme au premier rang de l'intrigue à énigme. La fin du film, que je vous ai simplement illustré par la slide 15, conduit néanmoins un retour dans le rang, donc c'est une fin qui est très convenue, conforme aux représentations de l'époque, conforme aussi à la mythologie de la star chevalier. Adrienne rentre dans le rang en devenant la fiancée, le faire-valoir du prince d'opérette qu'elle vient de sauver in extremis de la peine capitale. Donc on peut y voir une manière de réaffirmer la norme dans une fin de film où la dimension progressiste est atténuée au profit d'une reconstruction de l'autorité patriarcale. Néanmoins, ce que l'on retient du film, me semble-t-il, plus que cette fin normative, c'est finalement l'ensemble des troubles dans le genre qui ont été explorés durant la totalité du film. Il y a des travaux américains enfin anglo-saxons sur le genre américain du woman's film qui ont mis en évidence que très souvent à la fin du film la charge subversive du récit était récupérée par le happy end, mais que ce qui comptait le plus c'était finalement toutes les transgressions qu'il y avait eu durant le film et avant l'épilogue. Et ici je pense que on peut tout à fait faire un parallèle avec cette idée, et c'est un peu la même logique que l'on retrouve aussi. Et c'est vrai qu'on a une fin qui masque l'ascension professionnelle et sociale due aux efforts de l'héroïne par ce mariage qui, ne serait-ce que juridiquement, la prive de son autonomie. Néanmoins, l'enquête qui a été menée sur la masculinité et le fait que ce soit une jeune femme qui ait mené cette enquête est, je pense, ce qu'on retient de ce film qui reste un exemple tout à fait étonnant de la manière dont les représentations à l'époque étaient en voie de discussion, de redéfinition à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Cette tendance va se poursuivre durant l'occupation, à travers donc une nette percée des enquêtrices durant cette période, donc qui plus largement est caractérisée par l'arrivée au premier plan de jeunes femmes dans le cinéma français, le recul des patriarches d'avant-guerre qui vont très souvent apparaître défaillants, déclinants dans le cinéma français sous l'occupation. Et je vous propose de regarder pour terminer ce cours la slide 16 et l'extrait 8, un extrait du film L'assassin habite au 21, réalisé en 1942 par Henri-Georges Clouzot. Il s'agit de la deuxième adaptation d'un roman de Stanislas André Stiman, réalisé par Clouzot, et dans la précédente, un film qui s'appelait Le Dernier des Six, il avait introduit un personnage interprété par sa compagne, Suzy Delair, et nommée Mila Malou, qui a tellement plu au public qu'il a développé ce personnage dans L'Assassin habite au 21, qui raconte par ailleurs la manière dont une série de meurtres va être résolue par l'inspecteur Wens, interprété par Pierre Fresnay, héros principal de l'enquête, et sa compagne, donc Mila Malou, qui va lui porter assistance, mais qui va aussi contribuer de manière décisive à la résolution de l'enquête. Intrépide, virevoltante, dynamique, Mila Malou va en effet défier son compagnon, et à un moment le rejoindre dans la pension de famille où il est parti tenter de démasquer le coupable, puisque c'est là où l'on menait ses investigations. L'inspecteur est déguisé en pasteur pour se faisant passer pour quelqu'un qui vient simplement séjourner dans la pension pour mener l'enquête, et il va être rejoint par Mila Malou qui va mener sa propre enquête. Bien qu'elle se révèle parfois maladroite, elle assomme notamment un moment par inadvertance l'inspecteur, elle le pousse aussi à ne pas baisser les bras lorsque l'enquête se trouve dans une impasse et va parvenir hein, de plusieurs manières à apporter une résolution à l'énigme. C'est elle aussi qui, à la fin du film, hein, va sauver son compagnon et permettre l'arrestation du coupable, ou plutôt des coupables, puisque le meurtrier nommé Monsieur Durand, qui signe chacun de ses crimes par une carte à son nom, s'avère être en réalité tous les pensionnaires de la pension. On se trouve, pour toutes ces raisons, hein, dans une rupture par rapport aux conventions d'avant-guerre. D'une part, le visage de la police, de la loi et de l'ordre n'est plus incarné simplement par un homme qui possède toutes les clés de l'affaire, comme ça a pu être le cas par exemple avec plusieurs représentations, plusieurs adaptations du personnage d'Hercule Poirot dans les années 1930. Donc on est dans quelque chose de beaucoup moins manichéen et dans quelque chose aussi hein, qui cesse d'associer le pouvoir de résoudre une enquête au masculin. D'autre part, on a également une façon de dynamiser, de moderniser l'image de la police et de l'enquête à travers donc cette figure de l'enquêtrice et la jeunesse de Suzy Delair, âgée à l'époque de 25 ans. Une forme de modernité aussi hein, chez ce couple qui n'est pas marié, mais qui vit ensemble et qui se caractérise hein, par une relation assez, assez originale, on va dire, hein, par rapport aux standards de l'époque. Une manière aussi qu'a le couple de se parler relativement sur un pied d'égalité et qui détonne, on va dire, dans les conventions de l'époque. Mila Malou, ce personnage, c'est une chanteuse qui est traitée avec une certaine dérision dans plusieurs séquences. Elle a du mal à décrocher un contrat lors de ses auditions, par exemple. Néanmoins, elle apparaît comme un personnage dynamique et ambitieux qui aspire à une reconnaissance sociale comme d'autres personnages féminins sous l'occupation. Vous pouvez regarder l'extrait que je vous ai proposé où elle intervient justement dans la pension et elle se fait évidemment remarquer par son franc-parler, son débit de parole qui s'inspire un petit peu des comédies screwball américaines. Je vous laisse regarder et apprécier cet extrait. Alors, sans énormément commenter la séquence, bon, vous avez pu avoir un aperçu de la truculence, de la gouaille du personnage qui, à partir du moment où elle a pris la parole, ne va plus la lâcher. Donc, en soi, là, c'est quelque chose aussi que l'on peut noter. Dans un cinéma, normalement, français des années 30 ou du début des années 40, où la parole est très souvent une prérogative, voire un privilège masculin. Pensez au film Méridionaux de Pagnol, par exemple, qui célèbre la performance orale, la virtuosité dans l'expression du langage chez les acteurs, les stars méridionales comme Fernandel, mais en excluant les femmes de ces jeux de langage. Ici, c'est la jeune femme qui a le beau rôle en matière de dialogue et qui est explicitement opposée au personnage de Mademoiselle Cuc, donc la vieille fille coincée, accrochée à des valeurs traditionnelles, et qui nous explique qu'elle veut écrire un roman policier qui se situerait dans un château en reposant sur des conventions extrêmement vieillottes. Et vous avez vu que par contraste, Mila affirme qu'elle est de son temps, et le démontre en fait par son image, par ses gestuels, par le rythme également trépidant de ses paroles, par la manière dont elle n'hésite pas aussi à se moquer de son compagnon. Donc une forme de liberté de parole, de naturel, de débrouillardise, qui affirme une émancipation atypique qui fait écho au rôle actif des femmes sous l'occupation, d'autant que le film fait implicitement référence à ce contexte de plusieurs manières. Je vous encourage à le regarder pour justement tenter d'étudier un petit peu cette dimension qui participe de la richesse de ce film et du rôle de Suzy Delair en tant qu'enquêtrice donc sous l'occupation. J'en termine ici pour m'arrêter à une heure pile de fichiers audio. J'espère que il n'a pas été trop difficile à écouter ou à comprendre, à assimiler. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours à distance. À très bientôt.